Bonjour à tous. Le message qui nous est apporté ce matin par notre frère Philippe Chalvic concerne des prophéties des jours derniers. Alors, le livre de l'Apocalypse évoque une coalition mondiale contre Israël à la fin des temps. Nous soulignons ici avec Philippe que son message n'est en rien une prise de parti en faveur de l'État israélien, bien que la ressemblance des événements réels et des événements du récit biblique puisse le suggérer. Voilà, merci et puis bonne écoute.
Alors, est-ce que le micro est à la bonne hauteur? On m'entend bien? Bonjour à tous. En l'absence de Timothée, c'est moi qui vais apporter la prédication ce matin. Merci Nathalie pour la première partie. Et je vous invite, avant de commencer, à la prière. Seigneur notre Dieu, nous tournons vers toi. Voilà, nous, au moment de lire ta parole, de l'écouter, de comprendre ce qu'elle veut dire, nous te prions d'illuminer nos cœurs. Parfois, nous pensons maîtriser cette parole, et en fait, c'est elle qui nous maîtrise, c'est toi, Seigneur, qui nous bouscule par ton Esprit Saint. Que ce soit encore le cas ce matin. Amen. Je vous invite à lire le psaume 46. La prédication portera sur le psaume 46. Au chef des chantres des fils de Corée sur alamot, c'est-à-dire sur le mode soprano, cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fend d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Alors, mon plan ce matin comprendra une introduction sur les fils de Corée, puisque c'est un psaume des fils de Corée. Et ensuite, il y aura deux parties. Une première partie pour expliquer ce psaume qui est prophétique, et une deuxième partie pour en tirer trois enseignements pour nous, les chrétiens. Alors, l'introduction. Ce psaume a été écrit par les fils de Corée. Les fils de Corée font partie des Lévites, les descendants de la tribu de Lévi. Dieu avait mis à part les hommes de cette tribu pour son service dans la maison de Dieu. Mais leur fonction s'est un peu altérée au temps des juges. Quand cette maison de Dieu a été dressée à nouveau sous la forme d'une tente, d'un chapiteau, à Jérusalem, par le roi David, pour accueillir l'arche de l'Alliance, le roi David a rétabli la fonction des Lévites. Et il les a chargés de s'occuper du service du sanctuaire, qui consistait notamment à aider les sacrificateurs dans la préparation des sacrifices, à garder l'entrée et aussi à louer Dieu. Éman en particulier est cité dans la Bible, c'est un membre du clan de Corée et il a été associé à l'équipe de louange aux côtés d'Azaph qui en était le responsable. Éman était percussionniste. Et ainsi, on voit que le livre des psaumes contient une douzaine de cantiques écrits et composés par le clan de Corée. Beaucoup sont particulièrement poétiques pour exprimer toutes sortes de sentiments. L'élan de l'âme, comme une biche altérée soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. La tristesse, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ? Espère en l'Éternel, car je te louerai encore. L'amour, des paroles pleines de charme, bouillant dans mon cœur, je dis, mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. La confiance, heureux ceux qui trouvent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Le désarroi, et moi, c'est l'Éternel que j'appelle au secours. Le matin, ma prière s'adresse à toi. Pourquoi, Éternel, me rejettes-tu ? Pourquoi me caches-tu ton visage ? Voilà des extraits des psaumes de Corée. Mais il y a aussi autre chose concernant les fils de Corée, c'est qu'ils portent justement le nom de leur ancêtre, qui est devenu tristement célèbre par sa contestation de l'autorité de Moïse et d'Aaron. Jugé et condamné par l'Éternel, il est mort englouti par la terre qui s'est ouverte et refermée sur lui, ainsi que sur deux chefs, Dathan et Abiram, qui s'étaient présentés aussi devant l'Éternel avec toute leur famille et qui ont ainsi été enterrés vivants. Corée, lui, était venu seul devant l'Éternel et sa famille a donc été épargnée. C'est de la descendance de cet homme-là dont la révolte est restée dans les mémoires et est citée dans le Nouveau Testament, que Dieu a appelé les fils de Corée et les a inspirés pour chanter ses louanges. Quel que soit notre passé, quel que soit ce qu'on fait nos pères, Dieu veut agir avec miséricorde envers nous et nous permettre de le servir d'une manière qui l'honore. C'est le témoignage des fils de Corée. Et les fils de Corée n'ont pas seulement été des poètes, ils ont aussi été des prophètes. Et le psaume 46 est un psaume éminemment prophétique. Le psaume 46 est un cantique par lequel les Israélites pouvaient exprimer leur confiance en Dieu, à savoir que Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Mais ce qui est surprenant, c'est que pour démontrer ce secours indéfectible, l'auteur ne prend pas un exemple du passé, comme par exemple la sortie d'Égypte ou la manne dans le désert, mais il prend un exemple de l'avenir, celui de la venue du jour du Seigneur. Si ce psaume s'adresse premièrement aux Israélites, le peuple descendant de Jacob, l'autre nom d'Israël, nul doute qu'il est aussi destiné aux chrétiens de tous les temps et qu'il peut nous aussi nous encourager et nous aider à garder une bonne attitude face à l'adversité. Alors voyons tout d'abord la situation dans laquelle Dieu est appelé à être un secours qui ne manque jamais dans la détresse pour Israël. C'est la première partie. Il nous est dit au verset 3 et 4, « C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. » Des bouleversements d'une telle ampleur évoquent certainement les temps de la fin, lorsque, au jour du Seigneur, aura lieu la grande bataille de Jérusalem et de Megiddo. Nous trouvons la description de ces événements dans les écrits des prophètes Joël, chapitre 3, Ézéchiel, chapitre 39, Zacharie, chapitre 12 à 14, et aussi dans l'Apocalypse, les versets, les chapitres 6, 16, 19. Brièvement, on peut rappeler quelques éléments importants de cette bataille. Tout d'abord, on peut dire qu'un jour, toutes les nations unifiées par celui qu'on appelle la bête dans l'Apocalypse vont se réunir dans cette plaine de Megiddo située au sud de Nazareth sous le commandement de cet homme mauvais dans le but d'attaquer et de détruire Israël. C'est ce que suggère le verset 7 de ce psaume lorsqu'il dit « Des nations s'agitent ». Plus clairement, le prophète Joël annonce ainsi ce rassemblement que l'on crie aux nations étrangères « Préparez le combat, mobilisez vos guerriers, que tous les soldats se mettent en marche. » Alors Dieu interviendra pour sauver son peuple et punir les nations. Il interviendra tout d'abord par un déchaînement de phénomènes naturels, en particulier par des tremblements de terre, comme cela est décrit au verset 3 et 4, qui agiteront les mers et les montagnes avec une violence inouïe. Alors cette grande armée liguée contre Israël sera détruite et le Seigneur apportera également la destruction dans les pays de la terre. C'est pourquoi nous lisons au verset 7, « Il fait entendre sa voix et la terre se fend d'épouvante. » Et au verset 9, « Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. » La paix règnera ensuite sur Israël et s'étendra à la terre entière. Toutes les armes laissées sur le champ de bataille seront récupérées pour être détruites ou brûlées. Le prophète Ézéchiel précise que la durée de ce travail sera de 7 ans. Et c'est ce qui est évoqué au verset 9 et 10 du psaume, où il est écrit « Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. » C'est au cours de ces événements que le Seigneur Jésus reviendra sur le mont des Oliviers, comme cela est dit en Zacharie 14, verset 4, et en Acte 1 aussi. Et à ce moment-là, il entamera un règne parmi les hommes depuis Jérusalem. C'est ce qu'indique le verset 6. « Dieu est au milieu d'elle, la cité de Dieu, c'est-à-dire Jérusalem, elle n'est point ébranlée. » Alors ce sera le début d'une période de prospérité matérielle et de rayonnement spirituel intense pour le peuple d'Israël qui aura désormais reconnu en Jésus son Dieu. Cette nouvelle ère est illustrée par un fleuve qui coulera depuis le temple et qui ira se jeter dans la mer morte. C'est un fleuve qui est mentionné au verset 5, un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Le prophète Ézéchiel précise que ce fleuve assainira les eaux de la mer morte et qu'on y trouvera un grand nombre de poissons. C'est aussi une image du rayonnement spirituel d'Israël qui, à son tour, répandra la parole de Jésus dans le monde entier pour lui redonner spirituellement vie. Voilà pour ces quelques éléments d'explication de la prophétie de ce psaume. Ainsi, nous voyons dans ce psaume que lorsque Israël subira la plus grande tribulation de son existence, l'envahissement de son pays par une formidable coalition formée par les nations de toute la terre, Dieu interviendra et le sauvera miraculeusement. De sorte que les Juifs seront obligés de s'arrêter et de reconnaître définitivement que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il domine sur les nations, qu'il domine sur la terre. Et pour nous, chrétiens, qu'en penser? Nous sentons que le monde tel qu'il est aujourd'hui va vers une impasse. de crise en crise, de dérapage en dérapage. Une crise finale se profile. Le fait qu'il y ait de nouveau un pays d'Israël, le fait qu'il y ait une économie mondiale avec des interdépendances fortes entre tous les pays, le fait qu'il y ait une culture et des moyens de communication mondialisés qui fait que les gens se préoccupent des mêmes choses au même moment sur toute la surface de la planète, tout cela crée les conditions favorables pour l'apparition d'un homme fort, unificateur, qui hâtera la venue du jour du Seigneur. Mais alors, quelle est l'exhortation pour nous ? Ce texte n'est-il pas plutôt pour nous une occasion de chute ? Des nations unifiées sous la bannière de la bête, des tremblements de terre et des raz-de-marée, une terrible bataille finale, voilà qui peut susciter un rejet de notre part. En effet, nous sommes déjà angoissés par des soucis de toutes sortes. La santé, la famille, le travail, comme l'a rappelé Nathalie, l'Église, nos emprunts, notre sécurité financière, le réchauffement climatique, l'instabilité politique. Comment s'accorder avec le psalmiste lorsqu'il dit « nous sommes sans crainte » ? Eh bien, je veux relever dans ce texte trois enseignements qui peuvent nous aider dans la détresse. Et c'est l'objet de ma deuxième partie. Le premier enseignement, c'est que Dieu nous voit lorsque nous sommes dans la détresse. Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse, nous dit le verset 2. Dieu connaît notre désarroi, nos luttes. Et comme il l'affirme au peuple d'Israël dans ce psaume, et comme il le fera dans les derniers temps, Dieu vient au secours de ses élus. Il vient à notre secours. Il ne manque pas, il ne manque jamais. Voilà un réconfort extraordinaire qu'il ne faut surtout pas oublier. En toutes circonstances, nous pouvons faire appel à Dieu, car il se tient là, près de nous. Mais alors, diront peut-être certains, pourquoi ne me répond-il pas ? Pourquoi ne m'exauce-t-il pas ? Moi qui, par exemple, n'ai pas de travail et n'en trouve pas, moi qui en ai un mais ne le supporte plus, moi qui suis seul, ou moi qui ai un conjoint ou un parent mais n'en peux plus, moi qui n'ai pas d'enfant, ou moi qui en ai mais qui me donne un souci perpétuel, moi qui suis affaibli, qui suis souffrant. Justement, ici vient le deuxième enseignement de ce psaume. Le verset 11 dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Dieu, dans sa sollicitude, nous dévoile un coin du voile qui nous masque l'avenir et nous révèle comment il va agir contre les nations de la terre. Et ce qu'il attend de nous, c'est que nous prenions conscience, premièrement, que le système qui régit ce monde va vers sa fin. Et deuxièmement, que la pleine révélation de l'autorité de Dieu sur ce monde est proche. Ce monde tel qu'il fonctionne aujourd'hui ne durera pas. Même si Dieu agit et préserve encore à ce jour nos sociétés humaines, c'est le temps de la grâce. Et même si nous devons être reconnaissants pour toutes les bonnes choses dont nous profitons, soyons convaincus que ce monde ne durera pas. Alors ne nous attachons pas à ces normes. Ne nous laissons pas entraîner par une quête perpétuelle de conformité à ces standards, lesquels nous entraîneront toujours plus à nous préoccuper de nous-mêmes et à oublier Dieu. Ne vivons pas comme les hommes au temps de Noé, selon l'avertissement de Jésus en Matthieu 24, au verset 38, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Qu'y a-t-il de mal à toutes ces choses? Manger, boire, avec modération bien sûr, se marier? Rien. Seulement, si ce sont là nos seuls sujets de préoccupation, on peut comprendre que Dieu ne réponde pas à nos prières. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Voilà une nouvelle perspective qui nous est donnée et qui doit nous aider à discerner ce qui est essentiel de ce qui ne l'est pas à l'échelle du dessein de Dieu pour les nations. Il y a encore un troisième enseignement. Le troisième enseignement, c'est que Jésus triomphera du mal et de la guerre qui est la conséquence de ce mal. Le verset 10 dit « C'est lui qui fait cesser les combats ». Un jour, tous les combats cesseront. Un jour, le désir de domination disparaîtra. Un jour, la cruauté ne fera plus la loi. Un jour, la souffrance et les larmes cesseront pour ceux qui seront réunis auprès de Dieu dans cette cité, qu'elle soit terrestre ou céleste. Oui, pour tous ceux qui sont en Christ, réconciliés avec Dieu, l'avenir est radieux. Que ce soit un apaisement pour chacun de nous. En conclusion, nous avons un Dieu qui ne change pas, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a projeté, il l'accomplira. N'oublions pas qu'il est toujours là près de nous pour nous secourir dans la détresse. N'oublions pas que nous ne sommes pas du monde. Sachons faire le tri dans nos passions et dans nos préoccupations. Et rappelons-nous que nous aurons un jour la joie d'être réunis avec lui dans son royaume. Amen.